Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Le vaccin en question, celle que l'on se pose sur le flacon proposé par AstraZeneca et qui est de plus en plus critiqué en Afrique du Sud, on a même arrêté de vacciner avec l'AstraZeneca. Celle aussi que vous pouvez poser, vous aussi, et que vous pourrez poser directement au professeur Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement qui sera avec nous à partir de 18h15 pour lui poser vos questions. Vous nous appelez dès à présent au 3210 ou vous vous connectez sur l'application RTL. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Découvrons avec vous les autres grands titres de ce mardi 9 février.
Et les musées vont rester ouverts à Perpignan au moins pour quelques jours. La justice a bien été saisie, mais elle ne se prononcera que lundi prochain. Dans ce journal également, ces nouvelles interpellations après les menaces sur la jeune Mila. 5 personnes sont toujours ce soir en garde à vue. Et puis on ira en Grèce. La Grèce où les bonnes sœurs d'un monastère ont saisi la justice pour protester contre les éoliennes. Elles redoutent que le bruit ne perturbe leur prière.
Il ne faudrait pas que les voix du Seigneur etc., etc. Bonsoir Peggy pour la météo.
Bonsoir Thomas. Bonsoir.
Cette fois-ci, la neige tombe. Hein.
Oui, c'est vrai. Et on attend de la neige jusqu'en Île-de-France, jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté, Alsace, entre cette nuit et demain matin. Il va neiger d'ailleurs demain sur le nord-est toute la journée. On a 36 départements en vigilance orange pour neige, verglas, grand froid et toujours inondation. Un temps pluvieux dans le sud et de la neige en montagne. Mais on attend une belle amélioration avec le retour d'éclaircies près de la Méditerranée et au nord dans l'après-midi entre la Bretagne et les Ardennes en passant par l'Île-de-France. Toujours des températures très froides, de moins 8 à 1 degré demain matin au nord et le ressenti est encore plus froid. Et le sud de 4 à 10 degrés, les maximales, moins 3 à 3 au nord, 6 à 15 au sud.
C'est un temps de couette, merci beaucoup.
RTL Soir.
Et pour commencer, souvenez-vous de Roland, ce retraité toulousain qui souhaite vendre sa maison pour se rapprocher de sa femme en EHPAD, mais qui ne peut pas parce que celle-ci est squattée. On vous en parlait dès dimanche soir sur RTL. Et bien, cette affaire a suscité de nombreuses réactions, beaucoup d'émotions aussi. Et ce matin, Patrick Hisson, elle a viré au face-à-face, parfois tendu, entre pro et anti-squatteurs.
Oui, ils étaient une quinzaine à essayer de dialoguer avec les occupants de la maison qui eux aussi avaient appelé quelques personnes à les soutenir. Mais au final, ce fut un dialogue de sourds.
Il veut la vendre pour aller rejoindre sa femme à la clinique, elle est malade. Lui aussi, il est malade. Il a besoin de l'argent.
C'est pas lui qui va la raser, il va la vendre. Il veut vendre sa maison.
Sous le regard de quelques policiers face aux micros et aux caméras, les squatteurs et leurs amis ont refusé de poursuivre la discussion face aux arguments des soutiens de Roland.
Je travaille de nuit et je travaille après ma nuit, je travaille le jour pour payer mon loyer. Et parce que je suis une bassine, je suis une vaillante, je suis pas une fatiguée comme toi. Moi, je vais pas habiter chez les gens. Toi, tu squattes chez les gens, chez des vieux de 88 ans.
Bien sûr que moi aussi, j'ai pas envie de travailler pour 1200 euros par mois, je le sais. Mais pour pas voler les autres, ça me choque. Les gens, ils se gavent sur notre dos. Mais je vais pas attaquer mon voisin de 88 ans qui est propriétaire. Juste ça.
Le groupe Tous Unis pour aider les victimes des squatteurs à Toulouse a promis de revenir demain matin.
Patrick Hisson à Toulouse pour RTL. Sur le front du Covid, à présent, c'est K qui interpelle ce soir. 47 des 78 résidents d'un EHPAD de Meurthe-et-Moselle ont été testés positifs, et ce, alors qu'ils avaient tous été vaccinés mi-janvier. Caroline Guillotin est la directrice de l'établissement.
Dimanche 31 janvier, 7 personnes qui présentent de la fièvre, donc qui sont testées immédiatement. Et là, le verdict tombe, Covid positif. Et aujourd'hui, on en est à 47. On a bon espoir, effectivement, que la première injection de vaccination qui a été réalisée mi-janvier protège nos résidents de développer des formes graves, ce qui semble être le cas, hein, mais je reste tout à fait prudente. C'est-à-dire que sur nos 47 résidents actuellement contaminés, très peu d'entre eux présentent des formes graves. Et la grande majorité d'entre eux présentent des symptômes très légers qui disparaissent en quelques jours.
Et des propos recueillis pour RTL par Dimitri Ramelot. Bonsoir Sophie Orange.
Bonsoir.
On va essayer d'y voir un peu plus clair avec vous. Quand on entend ça, hein, l'histoire de ces résidents, on se dit finalement que le vaccin n'empêche pas le Covid.
En fait, c'est ça. Rien ne prouve, à l'heure où on se parle, que le vaccin empêche d'attraper la maladie ou de la transmettre. La seule certitude, en fait, c'est que le vaccin Pfizer-BioNTech protège des formes graves de Covid-19. Conséquences directes, moins de risques d'être hospitalisé, moins de risques de réanimation et donc une mortalité en baisse. Après la première dose, il faut attendre une quinzaine de jours pour une efficacité à 50%. Et c'est seulement quelques jours après la deuxième dose que l'efficacité dépasse les 90%. On peut donc être vacciné et être malade, mais avec moins de symptômes. C'est en cela que le vaccin protège. C'est ce qui semble se passer sans doute dans cet EHPAD. Peut-être y aurait-il eu plus de morts, plus de formes graves si personne n'avait eu la première injection. On le vérifiera dans quelques jours. En attendant, les patients malades devront attendre avant de recevoir leur deuxième dose.
Précision signée Sophie Orange. C'est évidemment un des sujets qu'on abordera dans une dizaine de minutes maintenant avec le professeur Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, invité, je vous le rappelle, d'RTL Soir.
En attendant, on part pour Perpignan où les musées vont rester ouverts au moins jusqu'à lundi. La justice a été saisie après les arrêtés pris par le maire RN de la ville, Louis Alliot, mais elle ne se prononcera que la semaine prochaine. En attendant, les amateurs de culture en profitent, Patrick Tégéreau.
Au moins, cela aurait été l'occasion pour Cléa et ses copines lycéennes d'entrer dans un musée.
En fait, juste pour rigoler, j'aurais dit, ouais, c'est très cool d'aller voir un musée. Du coup, on est venu et tout, on a fait un tour et voilà, c'est cool.
Philippe, lui, était véritablement assoiffé de culture et il n'a pas l'impression de prendre un risque.
Pas du tout, pas du tout. Au supermarché, il y a davantage de risques, je pense. Ça fait du bien aussi de pouvoir voir des tableaux en vrai et non pas en virtuel. Moi, les visites virtuelles des musées, les concerts virtuels, je ne supporte plus.
Emma, elle, ne se sent pas dans l'illégalité.
Dans la mesure où il y a le respect des barrières, la distanciation, donc illégal, non.
Ce sera tout de même au tribunal administratif d'en juger. Louis Alliot, le maire, est confiant.
Mais j'irai défendre le dossier. Le juge doit être aussi capable d'évaluer la situation et de regarder l'équilibre qu'il peut y avoir entre respect du protocole sanitaire et de la politique de santé, mais aussi respect des libertés publiques.
Le tribunal administratif de Montpellier statuera lundi prochain.
Patrick Tégéreau à Perpignan pour RTL.
On marque une petite pause dans un instant. De nouvelles interpellations dans l'affaire Mila.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h08, la suite du journal Amandine Bégaud et le cauchemar qui se poursuit pour Mila.
Trois mois après avoir publié une seconde vidéo critiquant l'islam, cette adolescente continue de recevoir des menaces. Cinq personnes d'ailleurs ont été interpellées aujourd'hui, toutes soupçonnées d'être à l'origine de ces messages diffusés sur les réseaux sociaux. Bonsoir Guillaume Chiez.
Bonsoir.
On en sait un peu plus sur le profil de ces cinq personnes.
Oui, parmi eux, il y a quatre hommes et une femme. Tous sont relativement jeunes. Ils ont entre 18 et 29 ans. Aucun d'entre eux n'est connu pour radicalisation et un seul figure déjà dans les fichiers de la police pour une affaire de droit commun. Enfin, les gendarmes en ont la certitude. Ils ont tous agi dans leur coin, sans se coordonner. Tous les cinq sont soupçonnés d'avoir menacé Mila de mort en novembre dernier. En réponse à une de ces vidéos, à l'époque, la lycéenne avait été assaillie de milliers de messages sur le même ton, selon Richard Malka, son avocat, qui se félicite aujourd'hui de cette vague d'interpellations.
Je pense et j'espère que c'est une première vague et qu'il y en aura d'autres. Mais vous savez, c'est compliqué parce que il faut faire avec les réseaux sociaux, des réseaux sociaux qui parfois bloquent, en particulier s'agissant de Twitter, dont c'est la spécialité de bloquer les poursuites. Donc c'est pas facile, ça met du temps.
Et ce soir, les cinq suspects sont toujours en garde à vue. Ils encourent une peine maximale de 3 ans de prison ferme et 45 000 euros d'amende.
Merci beaucoup Guillaume. Guillaume Chiez du service police-justice d'RTL. Dans l'affaire Benalla, à présent, sachez que le parquet a demandé un procès pour l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron, hein, qui, on s'en souvient, avait été filmé en train de frapper des manifestants. C'était le 1er mai 2018. C'est désormais au juge d'instruction de trancher. Et puis le parquet de Paris annonce à l'instant avoir ouvert une enquête pour viol sur mineur, enquête contre le producteur Gérard Louvain et son mari.
On va en Grèce à présent et là-bas ce sont des nonnes qui ont saisi la justice, 5 nonnes d'un monastère du Péloponnèse.
Elles tentent, figurez-vous, de bloquer un projet de parc éolien, gros projet hein, à 110 millions d'euros. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles craignent, Alexia Kefalas, que ces éoliennes ne gâchent leurs prières.
Oui, le bruit des éoliennes du village voisin résonne jusqu'au monastère d'Aios Theodoros, Saint-Théodore, dans la région de Calavrita, au cœur du Péloponnèse, et il empêche les cinq non-orthodoxes grecs qui y résident de prier. En fait, ce parc éolien entre dans un projet global de la compagnie d'électricité de Grèce, qui a d'ailleurs construit juste au-dessus du monastère deux énormes pylônes de manière à acheminer du courant dans toute la région. Cernés, les cinq nonnes ont décidé de tout bloquer en multipliant les recours à la justice. Pour leur avocat Nikos Zafiropoulos, c'est une question de respect de la prière.
Nous voulons que ce chantier se fasse, comme tout le monde, pour le courant. Mais on ne peut pas avoir ce bruit en permanence au-dessus de la tête, juste à la porte du monastère.
Le projet est tellement avancé que la rébellion des nonnes pourrait mener tout le Péloponnèse à une coupure générale de courant. Il n'empêche, pour leur avocat, elles ne reculeront pas.
Nous allons épuiser tous les recours juridiques nationaux et même saisir la juridiction européenne.
En attendant, le Conseil d'État doit rendre son verdict dans une semaine.
Alexia Kefalas, la correspondante de RTL à Athènes. Athènes, Thomas, où il faisait cet après-midi, j'ai regardé 19 degrés.
Eh ben, je vous laisse.
Ça fait rêver. Hein. On est loin, très loin du froid glacial qui sévit depuis ce matin sur une grosse moitié nord de la France. Peggy nous le disait, ça va durer. Hein. Moins 8, vous disiez, Peggy, pour demain matin.
Exactement, mais pas le ressenti. Hein. Le ressenti sera beaucoup plus froid.
Merci de ces précisions.
Dans 4 départements, en tout cas, des Hauts-de-France sont d'ailleurs ce soir toujours en alerte grand froid. 23 autres de la Bretagne à l'Alsace en alerte neige. Pour l'instant, pas de grosses perturbations à signaler. Il est tombé à 3 cm de neige en Bretagne et c'est plutôt ce soir ambiance sport d'hiver. Illustration au Roc Trait du Don, l'un des sommets bretons où l'on retrouve Nicolas Bobby.
Le Roc Trait du Don culmine à 385 mètres, une belle montagne bretonne. Ces étudiants de Morlaix profitent de l'or blanc.
Ça fouette beaucoup le visage quand on n'est pas trop équipé comme nous. Ça change les paysages bretons et c'est super beau.
On a souvent de la pluie et un temps un peu doux quand même. Avoir de la neige et des conditions un peu extrêmes comme ça, ça fait beaucoup de bien.
Surtout en cette période où on n'a pas forcément trop la chance de sortir, etc. Prendre le grand air avec de la neige, c'est plutôt chouette quand on peut pas partir à la montagne.
Dans ce secteur, les routes sont toutes blanches, parfois glissantes. Les Bretons ne sont pas habitués à la conduite montagnarde. Peu de véhicules sont équipés de pneus neige.
Ils roulent en seconde, en troisième, ils ne freinent pas, ils ne collent pas au derrière des autres. Et puis, ils arrivent sains et saufs en principe. Mais nous, on est téméraires, on est des filles du Léon et on aime bien le goût du risque.
En plus, il fait un froid polaire. Toutes les doudounes ont quitté les placards. En Bretagne, c'est l'accessoire à la mode.
Ben oui, on n'a pas l'habitude. Hein. Nicolas Bobby dans le Finistère pour RTL. Et puis en Ile-de-France, sachez que la neige est attendue dans la soirée.
Peggy.
Il n'y a pas d'heure précise.
Comment ça, il n'y a pas d'heure précise?
Parce que c'est très compliqué d'être précis sur les horaires.
Bon,
et d'ailleurs, on a pris du retard pour la Bretagne, vous l'avez vu aujourd'hui. Et donc, du coup, le temps que ça arrive par l'ouest. Ça arrive sur les Yvelines. Et donc, à Paris, ce serait plutôt aux alentours des 22h.
Voilà. Je vous rappelle qu'à 18h, on est censé être chez soi.
Voilà,
de toute façon.
Ça, il est 18h13. C'est l'heure de la bonne nouvelle du jour.
Ben voilà.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et les mentalités évoluent, y compris dans les plus vieilles institutions. Le très prestigieux collège de Winchester, là où sont scolarisées toutes les élites britanniques. C'est un peu comme Eton, là où vous savez, les enfants, les petits-enfants de la reine vont à l'école. Eh bien, l'établissement va enfin ouvrir aux filles. Révolution, c'est une première depuis sa création en 1382.
1382, oui. Ouais, ce qu'on appelle une décision mûrement réfléchie.
C'est ça, tout arrive.
Merci beaucoup, à tout à l'heure Amandine.
À tout à l'heure.
C'est le monsieur vaccin du gouvernement, le professeur Alain Fischer est l'invité exceptionnel d'RTL Soir tout de suite. Alain Fischer qui répondra également à vos questions. Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 3210 ou connectez-vous sur l'appli RTL.
Thomas Soto, RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
Il est professeur d'immunologie pédiatrique et chercheur en biologie. Depuis début décembre, il est aussi l'homme que Jean Castex a nommé pour conseiller et orienter la stratégie vaccinale face au Covid-19. Alain Fischer est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, professeur Fischer.
Bonsoir.
Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir la une du journal Le Monde ce soir.
Pas
AstraZeneca, l'efficacité du vaccin en question. On savait déjà qu'il ne fallait pas l'injecter aux plus de 65 ans. On apprend maintenant qu'il serait très faiblement efficace contre les infections légères aux variants sud-africains. D'ailleurs, en Afrique du Sud, la campagne de vaccination avec ce vaccin a été suspendue. Est-ce que vous aussi, vous avez, professeur Fischer, des doutes sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca ?
Je pense qu'il faut en rester aux faits. Donc les faits sont que ce vaccin n'a pas été testé chez des personnes âgées de plus de 65 ans. Donc on ne peut pas dire qu'il est inefficace chez des personnes âgées de plus de 65 ans, on n'a juste pas de données. Et donc de façon très raisonnable, il a été proposé par la Haute Autorité de Santé et mis en place le fait que ce vaccin est réservé à des personnes âgées de moins de 65 ans.
Mais là, alors, l'étude dit qu'il...
Oui, attendez, il y a deux choses. Ouais. Ça c'est l'aspect, parce que vous avez évoqué 65 ans, donc j'explique pourquoi.
Ça
c'est,
d'accord.
C'est en absence de données. Alors, ensuite, il y a une petite étude, petite parce qu'elle n'inclut que 2000 personnes, de jeunes Sud-Africains, 30 ans de moyenne d'âge, je crois, chez lesquels l'efficacité de ce vaccin à l'égard de la protection contre les formes modérées de la maladie, parce que cet âge, avec une si petite population, on ne voit pas de formes sévères, est modeste, très modeste, insuffisante, c'est indiscutable. Mais dans un contexte qui est celui de l'Afrique du Sud, où malheureusement pour eux, prédomine maintenant un variant du virus qui a muté et qui est plus contagieux et qui résiste en partie à l'immunité naturelle. Et il y a un tout petit peu à certains vaccins et probablement un peu plus à celui-là. Mais il est pas, on ne sait pas s'il protégerait contre des formes graves là-bas, puisque il n'a pas été testé.
On peut penser que s'il protège pas contre des formes légères, il doit pas protéger. Non, ça marche pas comme ça.
Ça marche pas comme ça. Ça marche c'est pas plutôt comme ça. Dans l'autre sens. Donc on peut pas conclure sur ce point. Mais c'est sûr que c'est une information aussi limitée soit-elle, qui est un petit signal d'alerte. Mais encore une fois, il faut bien la placer dans son contexte.
Ça doit nous conduire à revoir notre stratégie, nous, en France, par rapport à ce vaccin ?
Pas aujourd'hui, en tous les cas. Après, les choses peuvent évoluer en fonction des connaissances, comme toujours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le variant isolé en Afrique du Sud, donc qui est plus résistant, est très, très largement prédominant en Afrique du Sud, alors qu'en France, c'est peut-être 1% des cas.
Certains médecins disent qu'on est plus proche des 5% déjà. C'est du doigt mouillé ou c'est de...
De ma connaissance des données, on est plutôt de l'ordre de 1%. Maintenant, il faut voir l'évolution au cours des jours et des semaines qui viennent. C'est sûr qu'on peut être amené à modifier l'attitude de stratégie vaccinale en fonction des données. C'est normal, ça se passe ainsi. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même rassurer le message qui doit être donné aux personnes qui sont vaccinées. Les personnes qui sont vaccinées aujourd'hui avec ce vaccin en France sont des professionnels de santé âgés de moins de 50 ans. Cette opportunité, heureusement, à court depuis samedi dernier, c'est une bonne chose. Et donc, dans 99% des cas, ce vaccin, il est efficace comme il a été décrit initialement. Il reste un bon vaccin, mais il faut le surveiller.
Alors, on s'interroge quand même, quand on n'est pas médecin, comme nos auditeurs, sur cette course à l'urgence face à cette crise. Est-ce que les gouvernements, les États ne se sont pas fait un peu, pardon du terme un peu familier, mais un peu enfumés par certains laboratoires qui auraient un peu survendu leurs produits, qui auraient dit voilà, vraiment c'est très 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 efficace, alors que peut-être ça l'était un peu moins. Il y a de ça ou pas ?
Non, je ne crois pas, parce que chacun des vaccins, en tous les cas pour ce qui nous concerne, nous en Europe, chacun des vaccins qui a été développé par tel ou tel industriel est examiné d'une façon extrêmement attentive par l'Agence européenne du médicament. Il est examiné en ce qui concerne la qualité du produit, les matériaux nécessaires, la façon dont il est produit respecte les codes stricts de production de médicaments. Il est évalué en ce qui concerne sa sécurité d'emploi. Il est évalué en ce qui concerne son efficacité, avec toute une série de données. Ce sont des évaluations très lourdes par des dizaines d'experts. Et chacun des vaccins autorisés, il y en a 3 aujourd'hui, on en attendant quelques autres bien sûr, donc le Pfizer, Moderna, les vaccins ARN et donc plus récemment l'AstraZeneca, on franchit cette évaluation. Donc c'est parce que cette évaluation bien faite est positive que ces vaccins sont disponibles.
Chez nous, c'est désormais le variant anglais qui inquiète, il sera bientôt majoritaire dans le pays. Est-ce qu'il existe un risque que le variant anglais et le variant sud-africain se marient, en quelque sorte fusionnent? Il y a un risque de ça ou pas?
Alors, le terme n'est pas tout à fait juste.
J'imagine qu'il n'est pas scientifique, mais l'idée est là.
L'idée est que plusieurs mutations peuvent s'accumuler et qui rend un virus un petit peu plus résistant éventuellement. Le variant anglais, on sait qu'il est parfaitement sensible à tous les vaccins. Le variant sud-africain, il diminue un petit peu l'efficacité de d'autres vaccins, Novavax, Janssen, qui ne sont pas encore disponibles et qui vont venir en France, et peut-être donc aussi l'AstraZeneca. On sait qu'une des mutations qui est présente, parce que c'est une série de mutations en fait, ces variants, qui est présente sur le variant qui a été initialement isolé en Afrique du Sud, est également présente sous un sous-variant du variant britannique, parce qu'en fait c'est un élément important de sélection pour le virus. Donc tout ceci est suivi de près et peut être amené évidemment à faire modifier encore une fois la stratégie vaccinale, mais c'est pas le lieu aujourd'hui, ça le sera peut-être jamais, on verra.
Bon, aujourd'hui on n'en est pas là en tout cas. Aujourd'hui la vaccination se fait en 2 doses, est-ce qu'il faut envisager de passer à 3 doses ?
En tous les cas, à court terme, non. C'est intéressant que vous posiez cette question parce qu'il n'y a pas longtemps, on était dans la problématique inverse. Pourrait donc faire une seule dose ou espacer les doses, ce qui est la stratégie qu'a choisie de façon un peu isolée, même totalement isolée, la Grande-Bretagne. Probablement pas à bon escient, mais bon, c'est leur responsabilité, leur choix. L'idée de la troisième dose, c'est l'idée justement toujours fondée sur les variants. C'est dans quelques mois. Sachant qu'on n'a pas pour l'instant les informations encore sur la durée de la protection. On sait que les vaccins ARN apportent une excellente protection, je pense qu'il faut le rappeler, de 95%, mais on ne sait pas si cette protection reste au même niveau au bout de 4 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois. On verra.
On ne sait pas encore. On ne sait pas encore combien de temps dure une immunité.
C'est pas possible. Il faut que le temps, laisser le temps au temps pour avoir... On a quelques informations sur l'immunité provoquée par l'infection. Oui. On arrive à 6 mois maintenant, ce qui est bien, mais l'immunité déclenchée par le vaccin, on ne sait pas encore. On présume du niveau très élevé d'efficacité que cette durée va être quand même assez longue, mais on n'en a pas les informations encore.
Vous répondez à la question que nous pose Serge sur l'application RTL. Faudra-t-il se faire vacciner tous les ans ? On ne sait pas encore, en fait. Voilà, on suppose que oui, j'imagine.
sans doute. On revient à votre question précédente, qui est une stratégie potentiellement intelligente, entre guillemets, c'est de considérer de faire un rappel de vaccination en utilisant le variant. Et l'intérêt, c'est que ces nouveaux types de vaccins, ARN notamment, peut-être aussi les vaccins adénovirus comme AstraZeneca, Janssen et l'autre, sont assez facilement adaptables. Donc peut-être que la bonne stratégie, ça sera, après avoir eu les deux doses de vaccins dans la période actuelle, les semaines et les mois qui viennent, c'est 6 mois, 8 mois, un an plus tard, on verra, d'être revacciné avec un vaccin à base de variants.
Professeur Fischer, est-ce qu'aujourd'hui tous les patients des EHPAD qu'ils souhaitent ont pu être vaccinés en France ?
Beaucoup d'entre eux, on approche, on n'est pas encore tout à fait au bout de la proposition de vaccination dans les EHPAD, mais je crois qu'on a dépassé peut-être 60% des personnes concernées.
60% des gens dans les EHPAD ou des gens qui souhaitent être vaccinés ?
Des gens dans les EHPAD. Le taux, entre guillemets, d'acceptation, d'adhésion à la vaccination est remarquablement élevé, il est de 80%.
Oui, ce donc il formidable. Manque encore beaucoup de gens vaccinés dans les EHPAD.
Pas beaucoup, si vous faites la différence, c'est pas tout à fait fini. Ouais. D'ici fin février, toutes les personnes en EHPAD auront été, qui le souhaitent bien sûr, auront été vaccinées et auront reçu leur rappel. Ce qui est appréciable, parce que je me permets de le rappeler, la vaccination a commencé par ces personnes, c'est que ce sont de loin les plus fragiles. 30% des décès dus à la maladie, ce sont les personnes en EHPAD. Donc une fois que ce niveau de vaccination aura été atteint, on va commencer à épargner des vies. C'est quand même l'objectif de la vaccination premier.
On entend dire, professeur Fischer, qu'il y aurait une forte résistance des soignants. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui ou pas, résistance à la vaccination ?
Alors, restons un instant sur les EHPAD. Le chiffre que j'ai entendu hier est pas si mal. Enfin, c'est une bouteille à moitié pleine, à moitié vide. Si je puis dire, 55% des personnes qui travaillent en EHPAD, professionnels de santé, une bonne moitié, se sont fait vacciner, ce qui est plutôt encourageant, même si c'est un peu insuffisant. Alors, si on élargit la discussion, les médecins sont complètement convaincus, c'est 85%. Les pharmaciens, je pense aussi. Les infirmiers et infirmières le sont plus qu'ils ne l'étaient à l'égard de la vaccination contre la grippe, même si cela a progressé aussi. Les aides-soignants sont un peu en retrait. Et donc, il y a un travail à faire encore d'information, de bien expliquer pourquoi cette vaccination est importante, qu'elle est sûre, qu'elle est efficace, qu'elle permet de réduire la charge de soins dans les hôpitaux et donc de préserver pour nous tous, pas uniquement à titre individuel, mais pour nous tous, le fonctionnement des hôpitaux dont nous avons évidemment besoin. Donc il y a un peu de travail à faire encore, mais je pense que ça va franchement dans le bon sens.
Je voudrais qu'on écoute et qu'on réécoute ce que disait Emmanuel Macron, c'était il y a une semaine pile dans le 20h de TF1.
D'ici à la fin de l'été, nous aurons proposé en France, à tous les Français adultes qui le souhaitent, un vaccin.
Cette promesse présidentielle que tous les Français qui le souhaitent puissent être vaccinés d'ici la fin de l'été est-elle tenable ?
Alors elle dépend en tout premier lieu du fait que les vaccins précommandés, préachetés, on va dire ainsi, arrivent effectivement.
Donc c'est pas une certitude aujourd'hui.
Il n'y a aucune certitude de rien à partir du moment où tous les vaccins ne sont pas encore disponibles. Je veux dire, n'ont pas encore reçu une autorisation réglementaire. On en a trois, on en attend trois au printemps prochain. Ouais. Mais si les choses se passent comme attendu, le plan est celui-là. C'est-à-dire les vaccins autorisés, il faut que la production suive, il peut y avoir des accidents de production. Il y a eu, pour Pfizer par exemple, une petite restriction pas tout à fait négligeable il y a une ou deux semaines, enfin pas catastrophique, mais bon. Donc ceci peut
arriver. Ça reste du conditionnel en fait, savoir.
Forcément, mais néanmoins, les commandes sont telles que une fois passé, je dirais, la fin du printemps, qui doit permettre de vacciner toutes les personnes vulnérables, en tous les cas toutes celles qui le souhaitent, et on peut espérer qu'une grande majorité, je crois que ça sera le cas, le souhaite, parce qu'elles sont convaincues de l'intérêt de la protection. L'étape suivante, c'est de vacciner le reste de la population, qui est une population prédominante, qui est moins à risque. Il faut bien convaincre de l'intérêt de cette vaccination, mais le potentiel de vaccin est là.
Il nous reste moins de 2 minutes, professeur Fischer. J'ai beaucoup de petites questions assez concrètes. Si les réponses rapides sont possibles, tant mieux. Martine vous demande, faut-il oui ou non vacciner les enfants, on n'y comprend plus rien.
Non, aujourd'hui, non. La réponse rapide, c'est non aujourd'hui. Après, il peut y avoir des discussions dans 6 mois, 1 an, en fonction de l'évolution de la pandémie.
Abdel nous demande combien de temps le vaccin est-il efficace. Ça, on y a répondu. Anne, reste-t-on contagieux quand on est vacciné ? C'est vrai qu'on a entendu dans le journal de 18h cette EHPAD de Meurthe-et-Moselle avec tous ces résidents qui ont été vaccinés et qui ont été testés positifs.
Alors là, il n'est pas possible de répondre en 10 secondes,
ouais.
Parce qu'il y a deux aspects à la question. C'est si dans les jours qui suivent la vaccination, en gros, schématiquement, les 10-15 jours qui suivent l'injection de la première dose, on n'est pas encore protégé. Donc si on contracte le virus, l'infection à ce moment-là, c'est évidemment, il n'y a pas encore d'immunité.
Donc, il y a une zone de trou, en fait,
de
vide.
C'est logique. Ouais. C'est, il faut le temps que cela se mette en place. Ensuite, il y a une autre question qui est très importante, c'est est-ce qu'on peut être protégé à l'égard de la maladie, mais être toujours porteur du virus et transmettre? Question majeure.
On n'est pas malade, mais on peut transmettre
voilà.
Le Covid.
Ça, c'est une question majeure, parce qu'on comprend bien que de la réponse à cette question dépend de l'évolution de la stratégie vaccinale. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse
on
à
pas
cette
la
question.
Réponse à ça.
L'espoir, néanmoins, c'est qu'au moins partiellement, ce phénomène s'observe et permette à terme de réduire la transmission du virus.
Grégory, un spray nasal anti-Covid va être lancé. Est-ce que c'est fiable ?
Je ne sais pas de quel spray nasal il s'agit. Il y a en réflexion, mais pas tout à fait à court terme, pas pour cette année, des stratégies de vaccination par oui. voie mucosale, ce qui est potentiellement intéressant parce que c'est là que l'infection se passe, mais c'est pas au point. Le spray anti-virus local, je ne sais pas.
Pour l'instant, donc, on n'a pas de précision. Janine vous demande, quand est-ce que les pharmaciens vont-ils pouvoir vacciner ?
Bientôt, puisque...
C'est quand bientôt ?
D'ici une dizaine de jours environ, les médecins généralistes vont commencer à vacciner, puisque le vaccin AstraZeneca, il a le grand avantage d'être conservable au réfrigérateur, il n'y a pas besoin de congélateur.
Ouais.
Et dans la foulée, je dirais, dans les 8, 10, 15 jours qui suivent, logiquement, les pharmaciens eux-mêmes pourront commencer
donc,
à vacciner.
D'ici la fin du mois, quoi.
Oui, je pense qu'on verra ça d'ici fin février. Mmh. Oui.
Il y a beaucoup de questions aussi sur le vaccin russe, hein, le Spoutnik. Au mois d'août, vous étiez-vous très sceptique, disant de Vladimir Poutine, qui manipulait une information autour de la vaccination. Est-ce que vous avez changé d'avis ? Est-ce qu'il faut qu'on commande ce vaccin Spoutnik aujourd'hui ?
Au mois d'août, M. Poutine a annoncé que voilà, il y avait une autorisation d'utiliser ce vaccin, alors qu'il n'y avait aucune donnée scientifique.
Ouais.
Donc moi, en tant que scientifique, je réagis négativement à ce genre d'annonce, où on dit que voilà, on a un nouveau médicament, un nouveau vaccin, alors qu'on ne sait rien.
Ouais.
D'où ma réaction. Aujourd'hui, les choses ont changé parce qu'il y a une publication scientifique qui donne de bons résultats. Donc ce vaccin doit être considéré comme tout vaccin pour lequel des résultats sont intéressants. Reste, en ce qui nous concerne, à ce qu'il soit examiné, on en parlait tout à l'heure, par l'Agence européenne du médicament, ce qui n'a pas été le cas pour l'instant.
Mais vous dites pas non par principe, quoi.
Voilà. Bien sûr que non. Il n'y a aucune raison de dire non. Ma réaction du mois d'août, c'était une annonce. Voilà, ce vaccin est disponible, alors qu'on avait zéro information. Mmh. C'est ça qui n'allait pas.
Il fait très froid, professeur Fischer. Ma question peut-être vous paraît un peu anecdotique. On dit souvent que le froid tue les microbes. Est-ce qu'il y a une chance qu'il tue aussi le virus ?
C'est à l'évidence pas si simple, parce que sinon on aurait déjà vu dans des zones où la température est en moyenne très très froide un effet très très clair sur une diminution de la circulation du virus. Donc malheureusement, il y a probablement des facteurs climatiques, mais ils sont pas d'une nature telle ou d'une importance telle qu'ils vont permettre, comme vous dites, de tuer le virus.
Merci beaucoup, professeur Fischer, d'être venu ce soir pour répondre aux questions, notamment des auditeurs d'RTL. Merci infiniment.
Merci.
À suivre, l'œil de Philippe Cavrière. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Je vous ai vu écouter attentivement le professeur Fischer.
Oui. C'est amusant parce que le professeur Fischer est professeur d'immunologie et chercheur en biologie.
Oui.
Et figurez-vous que lui et moi, on a exactement le même parcours universitaire.
Ça ne se voit pas.
Jusqu'en cinquième.
Ah.
Et après, on a pris des routes différentes. Et comme le disait Hemingway, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. On me dit dans l'oreillette que c'est tonton David.
Oui, c'est tonton David.
Je les confonds tous les jours. Oui. Un peu, voilà. On vérifiera quand même si c'est Hemingway ou tonton David.
On vérifie le temps de la pub et on vous retrouve après le rappel des titres. À tout de suite.
Nous les scientifiques, on est carrés.
RTL Soir, Thomas Soto. Thomas Soto, RTL Soir.
Et le rappel des titres signé Amandine Bégaud.
Et le parquet de Paris annonce ce soir l'ouverture d'une enquête contre le producteur de télé Gérard Louvain et son mari, enquête pour viol sur mineur. 3 plaintes au moins ont été déposées. La crise sanitaire et sur RTL, le professeur Fischer se veut ce soir rassurant. Le vaccin AstraZeneca est, dit-il, un bon vaccin, même s'il doit être surveillé. Le monsieur vaccin du gouvernement qu'il annonce par ailleurs, les généralistes vont pouvoir vacciner d'ici une dizaine de jours. Les pharmaciens dans la foulée, sans doute d'ici la fin du mois de février. Et puis les départements des Hauts-de-France sont toujours ce soir en alerte grand froid. Alerte à la neige pour 23 autres de la Bretagne à l'Alsace.
La transition avec Peggy Brochet, toute trouvée, c'est le grand nord, hein, c'est
oui,
le grand froid.
Exactement, de moins 8 à 1 degré prévu au nord demain, donc un ressenti de moins 5 à moins 15 degrés demain matin au nord. Au sud de 4 à 10 degrés, ça refroidit, je vous l'accorde. L'après-midi,
au
moins
3... Quand on vous entend parler, on sent un peu...
Oui, je sais, ça glace. Hein. De l'après-midi, de moins 3 à 3 degrés, pas plus au nord, de 6 à 15 au sud. Vous l'avez dit, Amandine, 36 départements sont en vigilance orange.
Alors, vous piquez votre boulot.
Pour la neige, on en aura encore demain toute la journée sur le nord-est, partout en montagne, sur tous les reliefs, de la pluie dans le sud. Ça ira mieux dans l'après-midi près de la Méditerranée et retour du soleil également dans l'après-midi entre la Bretagne et les Ardennes.
Merci Peggy. L'œil de Philippe Cavrivière, nous sommes mardi. Bonsoir Philippe.
Bonsoir,
on vient de parler du Covid avec le professeur Fischer. Mais comme vous n'écoutez absolument rien, vous avez envie de commencer par un autre sujet, vous, ce soir.
Disons que je vous sens un chouille lassé par le Covid. Mmh. Et comme les vacances approchent, j'ai envie de vous parler d'un sujet plus léger, un sujet aquatique, un sujet thalasso, un sujet pied dans l'eau. Les inondations. Oh. Mais j'aimerais bien sûr, car j'ai un cœur, avoir une pensée pour ces gens qui souffrent et que vous avez tous vu à la télé.
Oui, les habitants des villages inondés.
Non. Journaliste de BFM. Qu'on envoie... Vous avez vu, on les envoie sur place. Oh ben, tu le vois à la tête que le jeune journaliste s'est fait piéger par Fogiel. Tu as dû lui faire « Christian ! Christian, tu sais nager ?» ouais, pourquoi ?»« Bah, tu pars en Charente. » Ouais, le pauvre Christian.
Une nouvelle imitation, là.
Ouais, pas terrible avec le masque. Mais... Ouais. Le pauvre Christian, il rêvait d'Albert Londres et de Joseph Kessel. Il se retrouve avec ses bottes Décathlon et les baloches qui flottent dans une eau à 8 degrés.
Oh, bah, elles deviennent toutes petites.
C'est dur pour lui. Bah oui. J'en parlais encore hier soir avec Nathalie Saint-Cric, qui me disait « L'eau !» L'eau, mon filou, cette saloperie. Ouais, elle était remontée, Nathaloche. Là, il y a Louis Baudin qui était là, qui a annoncé qu'il allait pleuvoir toute la semaine. Elle lui a balancé un cendrier Ricard, c'est parti en baston.
Ne racontez pas tout. Philippe, est-ce qu'on pourrait quand même avoir une, si ça vous embête pas, une pensée pour les vrais habitants sinistrés?
Mais est-ce que eux pensent aux Français qui ne partiront pas en vacances? Quand ils se baladent en Zodiac avec les sauveteurs, avec ce petit air supérieur, vous les avez vus? Moi, et puis à se vanter, moi j'ai la nouvelle cuisine à débordement, j'ai fait un petit tour de paddle sur mon écran plat ce matin. La prétention de ces nouveaux pauvres, ils sont écœurants.
Bon, voilà, on vient donc de perdre les auditeurs de Charente, excusez-nous.
Ils ne nous écoutent pas, à part s'ils ont des radios waterproof, ils ont autre chose à foutre.
Bon, du coup on va changer de sujet, on va parler de la vaccination des plus fragiles, et je pense entre autres à nos seniors.
Oui Thomas, permettez-moi d'être sérieux deux petites secondes et
oui, s'il vous plaît.
D'avoir une pensée pour mon papa, mon pauvre papa qui malheureusement est toujours en vie, c'est pour voir s'il écoute. Mais ça c'est vrai.
Vous venez d'être déshérité mon ami.
Alors ça c'est vrai, il n'arrive pas à décrocher son rendez-vous pour la vaccination. Il fait le numéro vert, il passe des heures à discuter avec le répondeur qui lui dit. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Ne quittez pas. Même trois fois, c'est agaçant. Bon, quelque part, ça lui fait de la compagnie, il a quelqu'un à qui parler. Il peut rester 4 heures en ligne, mais comme vous me le disiez hors antenne, Thomas, après tous les vieux...
On ne sait pas parler.
Après tous les vieux, ils ont que ça à foutre du moment qu'ils raccrochent avant 18h pour écouter RTL Soir.
C'est pas vrai.
Je m'en tape les balles neuves avec ma raquette Wilson. Alors, ça sonne comme du Nathalie Saint-Cric, ouais. Et c'est du Thomas Soto dans le texte.
Bon, c'est ça, oui. Bon, il y a des bonnes nouvelles dans l'actu quand même. Nos soignants peuvent désormais se faire vacciner. On en parlait avec le professeur Fischer, avec le vaccin AstraZeneca.
Avec mon confrère, le professeur Fischer, oui. Ce vaccin AstraZeneca, c'est une bonne nouvelle pour le personnel soignant. Le souci, c'est que les hôpitaux manquent de personnel soignant pour vacciner le personnel soignant. Et maintenant qu'on a le vaccin, il va falloir aller à la rencontre de nos professionnels de santé, là où ils sont le plus nombreux, bien sûr en réanimation, aux urgences, évidemment sur le plateau de BFM. BFM d'ailleurs qui vient de se classer premier au classement des hôpitaux publiés chaque année dans Le Point, devant l'hôpital Saint-Louis. Bravo BFM. Et puis pour les personnes lambda, tout venant, les auditeurs, vous, moi,
oui.
Mon conseil santé, oui. À la vitesse où on vaccine, le mieux c'est de devenir vous-même professionnel de santé. Vous faites infirmière, c'est 3 ans, médecin 9 ans, chirurgien c'est 15 ans. Franchement, ça vaut le coup.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai que le calendrier est meilleur. Toujours à propos de vaccins, il y a une image forte qu'on a vue et qu'on a revue hier, c'est le ministre de la Santé, ça vous a forcément pas échappé, Olivier Véran, qui a montré l'exemple en se faisant vacciner.
Attention, Olivier Véran n'a pas seulement montré l'exemple, il nous a montré son... Body. MM son summer body. On est mi-février, il est déjà prêt pour la réouverture des plages. À mon avis, il doit avoir la date, lui. Visiblement, Olivier Véran est ministre de la Santé, du fitness et du crossfit. Vous avez vu la petite contraction du biceps pour impressionner l'infirmière?
Oui.
C'était fugace, mais hop, il a contracté. Et la phrase de bonhomme là, à l'OSS 117, je n'ai rien senti. C'était très rapide. Même Amandine Bégaud, on a été tout émoustillé, on écoute.
Il a un peu, oui.
Il a été formidable.
Bandé le muscle, comme on dit.
Il a bandé le muscle.
Mais on dit ça comme ça, non?
Ah ben, on dit bandé le muscle, mais est-ce qu'on imagine le général de Gaulle bandé le muscle? Alors, c'est marrant, cette petite phrase de Véran qui dit « Je n'ai rien senti, c'était très rapide. Vous avez été formidable. » Et l'infirmière qui lui dit...
Moi non plus. Non.
qui lui dit... J'y suis déjà. Alors, ça me rappelle mes premiers amours, sauf que c'est exactement l'inverse.
Oui.
C'est moi qui disais, oh, je crois que j'y suis déjà. Et la dame me disait, je n'ai rien senti. C'était très rapide. Ah, bien sûr, elle ne me disait pas, vous avez été formidable.
Mais elle le pensait, elle le pensait. Revenons à Olivier Véran, si vous voulez bien. Alors, votre analyse de politologue, c'était de la com' pure?
Alors, je dirais plus que cet amour de l'effeuillage, ce foutage à poil systématique, c'est un peu la marque de fabrique des jeunes de La République En Marche. Mmh. Entre Olivier Véran et Benjamin Griveaux, on n'est pas sur des grands pudiques. C'est un peu le parti full monty. En parlant de Benjamin Griveaux, j'aimerais d'ailleurs fêter un anniversaire. Ah. Oui, parce qu'en fait, il y a un an du Zizi Guet. C'était il y a un an tout pile. Alors, j'imagine que Benji va fêter ça en amoureux avec son épouse, à quelques jours de la Saint-Valentin. Voilà un souvenir qui va remettre une bonne ambiance dans le couple. Ah, il nous aura fait rire et impressionné à la fois, Benji. Il n'a pas dû souvent entendre « J'ai rien senti », lui. Bon, bref.
Non.
Parce qu'en fait, il a un très gros kiki.
Alors, c'est Benjamin qui s'appelle, mais c'est vrai qu'il a un gros kiki. Même Jean-Pierre Pernaut avait commenté la vidéo à l'époque.
Jolie petite bête,
merci Jean-Pierre. Bon anniversaire aux Ziziguettes.
Absolument. Et bon anniversaire. Ah, dis donc, vous êtes professeur de médecine?
Oui.
Vous avez 50 ans depuis hier?
Alors, bien sûr, je suis comme Donald Trump, je conteste ces résultats. Je demande à ce qu'on recompte.
Prioritaire pour la vaccination.
Est-ce que je m'éveillerais comme ça si j'avais 50 ans?
Vous avez 50 ans, une tête de 30 ans et des habits de 12 ans, c'est vrai.
Ouais, un intellect de 14 ans, peut-être pas plus.
Bon anniversaire, vieux bouc.
Merci encore.
Bon anniversaire, Philippe.
Pardon, à 50 ans, tous les gens ne sont pas des vieux boucs, excusez-moi. Nico Saliagas va encore faire la tête. Merci Jean-Marc.
Laissez tomber. Cette émission prend l'eau. C'est un naufrage.
On vous retrouvera évidemment jeudi.
C'est Valérie Tréherbeller.
Ah oui, c'est ça.
Si vous voulez, je le fais. Je fais la suite.
Merci de faire le chat. Maintenant, on va essayer d'évacuer le forcené Philippe Cavrillard de ce studio et on va avoir bien besoin des conseils de Laurent Combalbert, ancien négociateur du RAID. Il publie un thriller, ça s'appelle Négo. A tout de suite.
RTL Soir, Thomas Soto.
RTL Soir avec Thomas Soto.
Il a été négociateur au RAID, intervenant dans ces moments cruciaux où en une fraction de seconde, pour un mot ou un geste, une situation peut basculer dans le drame. Aujourd'hui, il est négociateur privé. Il publie son premier roman, Négo, chez Calman Lévy. Laurent Combalbert est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Laurent Combalbert.
Bonsoir.
Négo, c'est l'histoire de Stanislas Monville, négociateur professionnel comme vous. Donc, il est contacté pour prendre en charge une négociation diplomatique ultra secrète. L'idée, c'est de créer un conservatoire de la biodiversité animale et végétale. Bon, là, comme ça, on se dit qu'il n'y a pas matière à se fâcher, là.
Il n'y a pas de loup au départ, effectivement. C'est une mission plutôt intéressante, plutôt sympa. C'est après que ça commence à se gâter.
Oui, parce qu'en fait, Stanislas Monville, il a affaire à une bonne armée de maboules. Où se situe la frontière entre ce que vous avez vécu, les personnages que vous avez rencontrés, auxquels vous avez eu affaire, et la fiction là-dedans?
Alors, c'est un roman, c'est une histoire que j'ai inventée parce que je voulais faire la négociation qui m'aurait le plus embêté, qui m'aurait le plus posé de problèmes, mais qui m'aurait aussi le plus excité.
Ouais.
Tous les personnages existent, tous ceux qui sont dans le livre existent vraiment. Ils ne se sont juste jamais rencontrés.
Vous avez fait le best-of en fait, vous avez pris tous les pires que vous avez rencontrés.
C'est un peu ça, oui. On s'est dit un jour en rentrant de mission, imagine que celui-là rencontre celui qu'on a vu l'an dernier, et puis à partir de là, on a commencé à inventer l'histoire.
Ouais. Donc Stanislas Monville, il a quand même beaucoup parlé avec Laurent Combalbert.
Ils discutent, ils échangent.
Ah. Pourquoi il s'appelle comme ça d'ailleurs Stanislas Monville? Il y a une histoire ou pas?
Alors Monville, c'est le nom que j'utilisais quand je partais en mission et que je devais me présenter à un preneur d'otages ou un kidnappeur. Et Stanislas, parce que j'adore.
À l'époque du RAID, ça c'est
à
ça
l'époque du, à l'époque, quand je gérais des kidnappings et des extorsions, quand
d'accord.
je partais à l'étranger.
Ouais.
Et Stanislas, parce que j'adore Stanislas Borowitz.
Belmondo
dans Flic au Voyou.
D'accord, ouais, ça leur encore plus sympathique, ce Stanislas Monville. Quand on fait votre métier, négociateur privé aujourd'hui, quelle est la limite où se situe la frontière entre la légalité et l'illégalité ?
On a toujours une limite qu'on ne franchit pas. Si on regarde le kidnapping, la gestion d'un kidnapping, on est à la limite, puisqu'il y a des pays où on n'a pas le droit de travailler. Oui. Prenez la Colombie, par exemple, pendant un certain nombre d'années, les négociateurs privés n'étaient pas autorisés. D'un autre côté, on fait le travail que la police ne peut pas faire ou ne veut pas faire, donc ça permet aussi de résoudre ce type de cas. On a des règles déontologiques, des valeurs qui sont importantes, donc on ne fait jamais de choses illégales ou qui pourraient mettre en danger la vie des gens pour lesquels on va
négocier. Donc il n'y a pas d'armes à feu pour vous ?
Jamais.
Il n'y a pas de ça ?
Jamais.
Ouais.
Jamais.
Mais il y en a beaucoup des kidnappings dans la vraie vie ?
Il y en a pas mal. On a officiellement recensé à peu près 100 000.
Dans le monde chaque année ?
Dans le monde chaque année, oui.
Et en France, chez nous ?
En France, il y en a très peu. La police est très efficace.
Oui.
Il n'y a pas de négociation sur les kidnappings en France. Ou s'il y a de la négociation, c'est pour permettre à l'enquête d'avancer. Mais dans des pays où la police n'est pas fiable ou dans des pays qui sont en guerre et sans ordre particulier, oui, il y a beaucoup de kidnappings intrafamiliaux, des kidnappings de locaux.
Ce sont des missions à risque donc pour tout le monde, non ?
Alors ce sont des missions à risque, et c'est pour ça que quand on voit Stan qui accepte cette mission-là, a priori elle n'est pas à risque, et c'est après qu'il découvre le danger, et trop tard, il a mis le doigt dans l'engrenage.
Racontez-nous comment ça se passe une négociation pour un kidnapping. C'est quoi ? C'est comme dans les films, c'est la valise de billets, c'est quoi ? Comment ça se passe ?
La première chose, c'est créer le contact.
Mais c'est là vraiment que la fiction et la réalité se rejoignent et que c'est fascinant.
Oui, c'est un peu comme on le voit dans le premier chapitre du roman. Il y a un contact qui est pris, un contact téléphonique, il y a une vraie concentration du négociateur qui va recevoir un appel d'un kidnappeur, qui va faire une demande, et il va devoir évaluer sa motivation, la crédibilité de sa menace,
oui.
Il va devoir essayer de minorer sa demande, et puis obtenir une preuve de vie. Bref, c'est la relation qui fait la différence. Dans ce métier-là, c'est la création du lien. Même avec un terroriste, même avec un criminel, on doit créer le lien de confiance. S'il n'y a pas lien de confiance, ça ne marche pas.
Est-ce que le négociateur a peur parfois ?
Bien sûr. Oui. Si on n'a pas peur, quand on fait ce métier, ça ne fonctionne pas, on est dangereux.
Oui.
La peur, c'est une super émotion. La peur, elle permet de s'apercevoir que c'est dangereux et de s'adapter en conséquence. Et c'est du doute, c'est également du doute.
Stanislas, dans le livre, Stanislas Monville, il prend des risques, il prend beaucoup de risques, il en fait prendre aussi aux siens, à ses proches. Dans la vraie vie de négociateur, donc celle de Laurent Combalbert, il vous arrive aussi, vous êtes arrivé de mettre la vie des vôtres en danger ou pas ?
Non, justement, ça m'est jamais arrivé, mais je me suis dit que ça serait une négociation très compliquée pour moi. J'ai essayé d'inventer l'histoire qui aurait été la plus complexe à gérer.
Ouais.
Et effectivement, dès lors qu'il y a une implication personnelle, dès lors que vous connaissez les gens qui sont retenus ou qui sont en face ou qui peuvent être victimes des agresseurs, ouais. Ça change la donne.
Vous faites un métier où la discrétion est requise. Si je vous dis quel est le dernier client qui vous appelait, vous n'allez pas me le dire, j'imagine.
Non.
Voilà. C'est pas paradoxal d'écrire, de s'exposer médiatiquement quand on fait staff, quand on fait ce métier ?
Alors, aujourd'hui, je pilote des équipes. Je travaille beaucoup sur la création de la confiance, des équipes de confiance. Donc,
je
suis moins en négociation au contact. Et c'est ce qui m'a donné justement la liberté d'inventer cette histoire et de me dire, allez, lâchons-nous, inventons l'histoire la plus difficile parce que je mets personne en danger, je cite aucun nom de personne qui existe, même s'ils existent tous les prénoms ont été changés, bien sûr.
On se fait des ennemis quand on est négociateur, comme ça, sur des kidnappings ou pas ? Ou est-ce qu'en général, ça se finit entre bons amis, entre guillemets ?
On n'est jamais bons amis avec des kidnappeurs ou des criminels. Maintenant, on doit jouer sur la confiance. On doit aussi respecter nos engagements, comme les kidnappeurs doivent respecter les leurs. Donc on se fait rarement d'ennemis quand on a des règles éthiques et qu'on ne fait pas n'importe quoi, on se met rarement en difficulté.
Règles éthiques, quand vous livrez une valise de billets pour faire libérer quelqu'un, il y en a une autre petite valisette pour vous ou pas ? Comment ça se
passe ?
Jamais.
Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous pourriez le faire, mais ça ne marche qu'une fois. Pour faire ce métier sur la durée, il faut avoir ces règles-là et les appliquer.
Alors, ça fonctionne comment ? Ça ne fonctionne pas comme ça ?
Vous facturez comme facture n'importe quel consultant.
C'est une société qui a pignon sur rue.
Voilà,
tout ça est transparent.
Tout à fait.
Et
souvent d'ailleurs, les gens sont surpris du montant qu'on facture parce que vu l'ampleur de la situation, ça les étonne de voir des montants qui ne sont pas finalement très élevés.
Vous me tendez une perche, là, c'est combien hein ?
Écoutez, n'hésitez pas.
Bon, il n'y a rien au bout de la perche.
On organise quelque chose, on monte un petit kidnapping, c'est ça ?
Ok, on va s'arranger. quand j'ai quelques noms à vous donner. Quand des Français se font enlever à l'étranger, hein, des prises d'otages, il y a des négociations, on le sait. Et au final, le gouvernement dit toujours, les gouvernements, quelqu'un dit toujours la même chose, nous ne payons pas de rançon, c'est la règle. Est-ce que les choses sont aussi simples que ça, Laurent Combalbert ?
Alors c'est jamais simple parce que quand un Français est kidnappé, la diplomatie rentre en jeu, bien évidemment. L'État français a des responsabilités, mais a aussi une nécessité de ne pas négocier dans ce type de cas parce que ça serait la course à l'échalote. On se mettrait à kidnapper des Français partout. Donc c'est vrai que l'État ne paye pas parce qu'aujourd'hui il y a des assurances qui couvrent ce risque-là.
C'est vrai qu'il y a quand même des gens qui payent, il y a des intermédiaires qui payent.
Alors quand on est sur des cas qui vont toucher des diplomates ou des journalistes, effectivement l'État ne paye pas directement, il peut trouver des intermédiaires. Mais la plupart des gens kidnappés sont des voyageurs d'affaires, sont des touristes, et quand ils travaillent dans le cadre d'une entreprise qui est couverte par une assurance, eh bien c'est comme ça que le négociateur entre en jeu. Stan Monville est un négociateur d'assurance, donc il travaille pour les assurances kidnapping, et c'est comme ça que ça fonctionne.
Ceux qui nous écoutent et qui se disent moi aussi je veux devenir un négociateur, comment ça se passe ? C'est quoi le cursus ? Alors vous, on sait, c'était un cursus très très prestigieux. Vous êtes passé par le FBI notamment, vous êtes passé par le RAID, on en parlait. Mais est-ce qu'on peut devenir négociateur comme ça?
On est tous négociateurs. On passe notre vie à négocier. Mmh. La négociation, c'est faire face à un désaccord exprimé, un conflit. Maintenant, on peut devenir négociateur
vous
professionnel.
Vous dites que négociation, c'est 80% de préparation et 20% d'agilité.
Ouais. On improvise beaucoup et on doit s'adapter. Mais oui, il y a des négociateurs aujourd'hui qui sont recrutés dans la police, qui sont recrutés dans la gendarmerie, qui sont recrutés également par les polices municipales. Ça commence à monter. Donc c'est un métier qui permet de régler pacifiquement des situations de crise et dangereuses. Donc bien sûr, si ça vous intéresse, foncez. C'est un métier extraordinaire.
On va à l'NPE, on dit faire négocier. C'est ça.
Alors à l'NPE, non. Vous aurez d'autres négociations à mener. Mais suivez un cursus de psychologie, un cursus dans lequel il y a des études de négociation. Les écoles de commerce commencent à mettre de la négociation. Et puis ensuite, lancez-vous dans ce métier, soit dans la police, soit dans la gendarmerie, soit à titre privé. Tout le monde a besoin de négocier.
Il faut être un peu plus à la page que moi. On dit plus NPE, on dit Pôle emploi depuis quelques années. Alors, revenons à Stanislas Monville, le héros de votre roman. Est-ce qu'il a vocation à devenir un héros récurrent? On le voit bien quand on lit comme une sorte de San Antonio de la négo, non?
C'est vrai que je suis assez attaché à ce personnage. Et pour tout vous dire, je suis en train d'écrire le second. Avec Calman Lévy, on est parti sur un second projet, effectivement, parce que c'est un métier qui peut amener tout un tas d'histoires et j'ai beaucoup d'imagination. Donc oui, on va essayer de faire vivre Stan dans la durée.
Et s'il devenait un film un jour, qui pourrait incarner Stanislas Monville?
Ah, écoutez, je ne sais pas vraiment. On a Mélissa Doun qui a fait la voix de Stanislas sur un podcast, qui a une voix qui correspond vraiment à la voix que j'avais en tête quand j'ai fait le personnage. Ah, il a aussi la tête du personnage, mais voilà, tout est ouvert.
Alors vous dites le podcast parce qu'en fait, quand on achète le livre, on a aussi un petit QR code, les petits carrés là qu'on peut prendre en photo avec son téléphone. Ça nous emmène sur un site où il y a des podcasts, où il y a des choses en plus, comme on dit. Ouais. Merci beaucoup, Laurent Cambalbert, d'être venu dans RTL Soir pour nous parler de ce roman, ce thriller négo. C'est vraiment bien. Vous allez vous laisser prendre. Vous allez passer des nuits blanches. Il nous emmène au cœur de ce métier fascinant et secret, Négo, qui est publié chez Calman Lévy Noir. Tout est